France Inter.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps, en Grèce, Hélène, la belle Hélène de Troie, celle qui a ravagé tant de cœurs virils et tant de vies pendant une guerre de 10 années, avait une sœur, Clytemnestre,
aux yeux d'azur sombre,
la très belle et la très convoitée épouse du roi Agamemnon. Il faudrait en fait dire une demi-sœur. Hélène était divine, fille de Zeus. Le dieu pour l'engendrer avait pris la forme d'un oiseau, un cygne ou un jarre. Clytemnestre était humaine, fille de Léda et du roi Tyndare. Ces deux sœurs, Hélène et Clytemnestre, ont eu des destins très différents. La divine Hélène finit dans un lieu bienheureux pour retraités immortels. L'humaine, Clytemnestre, finit pleine de colère aux enfers, où l'a envoyé son fils, qui l'a assassiné.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Mais Hélène et Clytemnestre, si différentes, sont indissociables, étroitement liées. Les deux sœurs ont épousé deux frères, les Atrides, les deux fils d'Atrée, Agamemnon, le frère aîné pour Clytemnestre, Ménélas pour Hélène. Les deux couples, Hélène et Ménélas, Agamemnon et Clytemnestre, vont être déchirés, bousculés par l'immense aventure qu'est la guerre de Troie. Aventure provoquée par l'adultère d'Hélène, ou pour le dire plus justement, provoquée par les dieux, qui se sont bien amusés à combiner cet adultère. Les deux sœurs, Hélène et Clytemnestre, ont toutes les deux fait l'histoire du monde. Enfin, pour les Grecs, chacune à sa manière, l'une pas moins que l'autre. Des femmes décisives, plus que leurs maris, qui font souvent pâle figure. La divine Hélène a ouvert le grand large à la Grèce entière. Elle lui a fait vivre une grande aventure à l'échelle du monde. Elle a entraîné au-delà de la mer une foule immense de rois, de héros, de soldats grecs. Ces hommes se sont lancés en masse dans une gigantesque expédition contre la ville fabuleusement riche et belle de Troie, en Asie. Hélène, la grecque, qui avait été mariée à l'un des rois grecs les plus puissants, Ménélas, avait tout quitté, mari, fille, famille, pour suivre jusqu'à Troie un jeune et joli prince troyen, Paris, envoyé par la déesse de l'amour, Aphrodite. Il s'agissait donc, avec cette guerre, de récupérer Hélène et de faire payer les Troyens. La guerre sera meurtrière. Clytemnestre, la femme mortelle, était nettement plus casanière que sa sœur. Elle est restée chez elle.
Bonne chienne de la maison.
Dans sa maison en Grèce, elle n'a pas bougé. Mais elle a changé la face du monde en osant un acte inouï. Non pas tromper son mari comme Hélène, mais le tuer chez lui, dans sa baignoire. Disons tout de suite qu'il l'avait bien mérité, enfin. C'est mon avis. Cet homme, ce mari, était Agamemnon, le général qui a mené les Grecs à la victoire contre Troie. Il n'était pas blanc comme neige. Pour gagner cette guerre, il avait sacrifié sa propre fille, Iphigénie, comme les dieux le lui demandaient. Ces dieux pouvaient faire ça. Les Grecs n'ignoraient pas les sacrifices humains. Clytemnestre, la mère d'Iphigénie, lui fait payer à son retour en Grèce cet acte monstrueux. Mettre à mort Agamemnon, le grand homme victorieux, est pour elle un acte de justice. Clytemnestre oblige alors les dieux et les sociétés humaines à se demander ce qu'est la justice. Elle oblige les dieux à trouver un moyen de sortir de ces violences. C'est bien ce qui va arriver à la fin de l'histoire, grâce à elle, à sa ténacité. Hélène l'infidèle.
La femme aux nombreux époux.
La voyageuse par amour a fait la Grèce. Elle l'a rassemblée contre un ennemi commun. Et son aventure a montré que les dieux de l'Olympe pouvaient vouloir la victoire des Grecs. Clytemnestre, la meurtrière à domicile, la violente, va rappeler fortement que les dieux ne peuvent pas tout exiger des humains, qu'on ne peut pas demander à un père de sacrifier sa propre fille comme ça, pour leur complaire. Clytemnestre, en agissant, va obliger les dieux à changer. Il est temps de dire un peu de bien de Clytemnestre, quand même. Pour Clytemnestre, côté amour et mariage, ça commence mal. On apprend incidemment qu'avant d'épouser le roi Agamemnon, elle était déjà mariée et avait un enfant, un bébé, encore dans ses langes. Ce premier mari s'appelait Tantale, du nom de l'ancêtre de la famille des Atrides. Ce n'était pas lui. Ce Tantale numéro 2 passait pour être un fils de Thieste, le frère ennemi d'Atrée. Pour un Atride, pour un fils d'Atrée comme Agamemnon, l'existence de ce Tantale, fils de Thieste, était insupportable. En plus, Agamemnon voulait à tout prix épouser Clytemnestre. Agamemnon, nous dit le poète Euripide, a alors commencé par tuer ce mari et l'enfant de ce premier mariage. Clytemnestre, longtemps après, le lui en fait vertement le reproche.
« Tu m'as épousé contre ma volonté, tu m'as prise de force. Pour cela, tu as tué Tantale, le mari que j'avais. Tu as inclus mon nourrisson dans ta part de butin, l'arrachant à mon sein brutalement. »
Castor et Pollux, les deux frères de Clytemnestre, les Dioscures, fils de Zeus, essayent alors de punir Agamemnon. Mais Agamemnon demande grâce au vieux Tindare, le père de Clytemnestre. Tindare accorde sa fille en mariage au criminel Agamemnon. Sans doute, l'union avec cette famille royale prestigieuse l'a incité à le faire. Et comme ça, sa fille Clytemnestre n'allait pas rester veuve et isolée. Clytemnestre continue à invectiver Agamemnon, son mari.
« Les deux fils de Zeus, mes deux frères, resplendissant sur leurs chevaux, t'ont fait la guerre. Tindare, mon vieux père, t'a sauvé la vie. Tu étais venu le supplier et ainsi tu m'as eu pour femme. Là, j'ai été forcée de changer à ton égard et à l'égard de ta maison. Et tu me seras témoin que j'ai été une femme sans reproche, me dominant pour ce qui est d'Aphrodite et accroissant ta famille dans ton palais. » Tu étais content d'y revenir, et lorsque tu en sortais, tu étais comblé. C'est une prise rare pour un homme qu'une épouse ainsi faite. Il est moins rare d'avoir une mégère.
L'histoire de ce premier mari tué par Agamemnon est racontée pour la première fois par Euripide. Est-ce un ragot tardif, une invention d'Euripide, qui aime tant critiquer les grands héros, surtout quand ils sont machistes? On ne saurait dire. Mais en tout cas, cette violence montre comment va fonctionner la famille désastreuse d'Agamemnon. Elle montre comment Clytemnestre ne va pas vivre comme sa sœur Hélène. Elle sera tout le temps confrontée au meurtre familial.
Ariane Mouchkine.
Je suis très étonnée, moi, de voir que dès qu'on parle de Clytemnestre, dès qu'on écrit quelque chose sur elle, c'est la mauvaise femme. Et on oublie absolument ce qu'elle a subi. Mais c'est vrai que les tragédies, c'est quand même souvent aussi le massacre des femmes par les hommes.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
Malcolm, oh oui, oui, Malcolm, de disparaître des hommes. Malcolm, oui, oui, Malcolm, brûler ses yeux sur la lumière. Et tout au bout du jour, quand il décline, quand moi je me ranime, tu ne deviens plus qu'une vapeur diurne, l'anneau de Saturne qui me tourne. Ne prend jamais plus la place de personne. Pas plus qu'ici. Le bon souvenir ne la laisse au mauvais. Et si le temps m'offrait l'homme on a de lui-même, je l'utiliserai encore. J'ai bien fait à aimer ce que tu es. ce que je suis. En somme, aimer ce que nous sommes. Et tout au bout du jour, quand il décline, quand moi je me ranime, tu ne deviens plus qu'une vapeur d'Io. L'anneau de Saturne qui me tourne, tourne autour. Et si le temps m'offrait l'aumône de lui-même, je l'utiliserais encore et bien fait. À aimer ce que tu es, à aimer ce que je suis, en somme, aimer ce que nous sommes.
Pierre Judet de la Combe raconte la destinée de Clytemnestre.
La femme blessée et meurtrière.
Le nom de Clytemnestre, Clytemnestra, signifie « glorieuse » par la cour que lui font ses prétendants. Un nom qui irait aussi pour Hélène. Mais alors que le mariage d'Hélène, désiré par une foule de mâles grecs empressés, a été réglé pacifiquement, moins pacifiques ont été ses conséquences, alors qu'Hélène passe légère d'un mariage à l'autre, pour Clytemnestre, la violence s'installe tout de suite dans la famille. Clytemnestre et son mari Agamemnon ne vécurent pas très heureux et eurent pas mal d'enfants. Parmi ces enfants, dont le nombre varie selon les légendes, compte surtout Iphigénie, Électre et Oreste. Chacun des trois aura un destin saisissant. Ça se gâte d'abord pour Clytemnestre quand Ménélas appelle son frère Agamemnon au secours. Sa femme Hélène, la divine, vient de s'échapper sur les chemins de la mer avec le prince troyen Paris, un fils du roi de Troie, Priam. Or, tous les Grecs qui avaient posé leur candidature pour épouser Hélène, une foule venue de partout en Grèce, avaient juré, avant que l'heureux candidat ne soit désigné, qu'il viendrait en aide au mari choisi si son mariage était mis à mal. Tous ces Grecs, donc, étaient contraints par leur serment à venir aider Ménélas à récupérer sa femme et à faire payer la faute de Paris à l'ensemble des Troyens. Le simple appât du gain aussi pesait très fort. La ville de Troie était fameuse pour ses richesses et ses femmes. L'armée se met en place. Agamemnon et Ménélas sillonnent la Grèce pour convaincre les rois grecs dispersés dans tout le pays de porter main forte. La plupart des rois répondent à l'appel. Ils mobilisent leurs hommes, s'équipent d'armes de bronze, de chars et de bateaux. Ceux qui ne participent pas à l'expédition payent un lourd impôt aux Atrides. Le point de ralliement de l'armée grecque est fixé par Agamemnon. Ce sera Aulis, sur une plage qui fait face à l'île d'Eubée, sur la côte orientale de la Grèce. Agamemnon quitte donc son palais, sa femme et ses enfants à Argos, dans le Péloponnèse, ou à Mycène, une ville voisine selon les traditions. Est-ce que les adieux sont touchants? Y a-t-il des scènes de larmes? Sans doute pas. Agamemnon est très méfiant. Il a peur que Clytemnestre ne le trompe. Comment être sûr de sa vertu? L'exemple de la sœur Hélène partie avec un autre homme ne le rassure pas. Agamemnon invente alors un procédé totalement inattendu, qui devrait faire plaisir à toutes celles et ceux qui croient dans les pouvoirs de la poésie. Mais il faut dire tout de suite que ce procédé ingénieux et poétique fait flop. Homère nous dit dans l'Odyssée qu'Agamemnon, avant de partir pour la guerre, laisse un poète, un chanteur, un naède, comme l'était Homère lui-même, en permanence à côté de Clytemnestre. Le charme de la poésie, du chant, devait, selon Agamemnon, combler de plaisir Clytemnestre et lui faire oublier les tentations de l'amour. Poésie et plaisir érotique seraient donc équivalents. On peut imaginer que le poète saura chanter Agamemnon absent, éventuellement. Ou plutôt, qu'il saura chanter tous les charmes de la vertu en les rendant irrésistibles. Évidemment, ça ne marche pas. Il suffira qu'arrive un amoureux de chair et d'os, un vrai, pas le chant d'un poète, pour que le procédé capote. Il suffira que cet amoureux supprime le poète et prenne sa place, mais pas seulement avec des mots. Cet amoureux arrive. C'est Égiste, un fils de Thieste, le frère haï d'Atrée, l'ennemi juré de la famille des Atrides. Il veut accomplir l'exploit immense que serait la conquête amoureuse de la femme d'Agamemnon, Clytemnestre. Et il y arrive. C'est en fait pour cela que Clytemnestre s'appelle Clytemnestre, la femme glorieuse par son prétendant. L'histoire est racontée après la guerre de Troie par le très vieux Nestor. Nestor, le vieux guerrier fatigué, raconte.
Égiste a imaginé un acte immense. Nous, là-bas, nous traversions jusqu'au bout 1000 épreuves, sans fléchir. Lui, tranquille au fond du pays d'Argos qui nourrit les chevaux, il s'occupait à charmer l'épouse d'Agamemnon, par 1000 paroles. Elle, d'abord, rejetait un acte aussi indécent, la divine Clytemnestre. Son cœur était plein de pensées bonnes, et il y avait près d'elle un chanteur. 1000 fois, le fils d'Atrée, Agamemnon, avait adjuré ce chanteur de veiller à la vertu de sa femme alors qu'il partait pour Troie. Mais le jour où le destin des dieux obligea Clytemnestre à se soumettre, Égiste emmena le chanteur sur une île déserte et l'abandonna. Il y devint la proie et l'aubaine des oiseaux. Égiste emmena Clytemnestre dans sa maison. Il le voulait, elle le voulait. Alors, il fit brûler sur les autels des dieux 1000 cuisseaux. Il attacha 1000 belles offrandes de tissu et d'or, car il avait réalisé le grand exploit que dans son cœur, il n'osait espérer.
Agamemnon aura une mauvaise surprise à son retour 10 années plus tard. Il sera tué dans une scène sanglante par cet Égiste, fils de Thieste. Homère dit que Clytemnestre a contribué au guet-apens, qu'elle a aidé à la mise à mort de son mari. Pourquoi en voulait-elle autant à son mari Agamemnon ? Homère, qui n'a pas une bonne opinion de Clytemnestre, fait comprendre qu'elle était séduite par Égiste et que, comme Hélène, elle avait simplement changé d'homme. Clytemnestre serait, selon Homère, le contraire de Pénélope, la femme indéfiniment fidèle d'Ulysse. Mais s'agit-il d'abord d'amour, d'adultère ? Clytemnestre serait-elle seulement une autre Hélène, la femme volage, en version plus violente ? Homère ne dit rien d'une autre histoire, très différente. Selon cette histoire, Clytemnestre avait de très bonnes raisons de mettre à mort son mari Agamemnon. Il avait tué leur fille, Iphigénie. Pour obtenir un vent favorable et faire partir son immense flotte vers Troie, Agamemnon aurait accepté de sacrifier sa fille Iphigénie. La déesse Artémis le lui aurait demandé. Clytemnestre n'a pas supporté et après 10 ans, une fois la guerre finie, elle aurait envoyé Agamemnon chez les morts rejoindre sa fille à cause de cet acte ignoble. Homère n'en dit rien, mais on peut supposer qu'il connaissait l'histoire. Elle apparaît dans les poèmes grecs très vite après la composition de l'Iliade et de l'Odyssée. Sans doute que ces histoires de famille, qui montrent des dieux aberrants, monstrueux dans ce qu'ils demandent aux humains, demander à un père d'égorger sa propre fille, n'intéressaient pas Homère. Il voyait plus grand. Mais cette histoire du sacrifice d'Iphigénie par son père existait bel et bien. C'est celle qui a fait le plus de bruit. Nous sommes à Aulis, sur la côte, là où la flotte grecque, prête à partir et rassemblée. Le spectacle est saisissant, inouï. Ils sont tous là, les héros, avec des centaines de bateaux, de chars, des milliers de panaches et de casques étincelants. On accourt pour voir. Dans sa tragédie Iphigénie à Aulis, Euripide fait entendre la surprise et la joie de jeunes filles émerveillées par un tel déferlement de puissance. Elles éprouvent un plaisir délicieux, disent-elles.
J'ai voulu voir le rempart des guerriers et les baraques des Grecs bourrées d'armes et la horde des chevaux. J'ai vu les deux Ajax assis côte à côte, le fils d'Oïlée et l'autre le fils de Télamon, la couronne de Salamine. Diomède trouvait sa joie dans les plaisirs
du disque.
Le plus impressionnant de ces tout jeunes rois est Achille.
Et Achille, au pied de vent, le rapide coureur que Thétis mit au monde et que Chiron rendit parfait,
je l'ai vu
sur les galets de la grève, engagé dans une course toute armée. De ses pieds, il soutenait la lutte contre un attelage de 4 chevaux. Il tournait autour de la borne pour la victoire. Le cocher poussait des cris.
On n'a jamais rien vu d'aussi grandiose en Grèce. La plage d'Aulis est entourée de bois consacrés à Artémis. Le roi Agamemnon, le général en chef, y chasse. Il est bon chasseur et tue une biche. Content, il s'en vante et dit même qu'il est meilleur chasseur que la déesse Artémis, la chasseresse par excellence. C'est complètement idiot. Exactement ce qu'il ne fallait pas dire. Artémis, évidemment, se fâche. Elle envoie des vents violents, des vents du nord, pour que la flotte ne puisse pas partir. Elle met une condition pour arrêter ce blocus. Que le roi Agamemnon paye sa faute envers elle en égorgeant sa fille Iphigénie dans une cérémonie religieuse. C'est douloureux. En plus, le problème est qu'Iphigénie n'est pas à Aulis, mais avec sa mère Clytemnestre dans leur palais royal, à Argos. Agamemnon demande alors à sa femme d'amener leur fille Iphigénie à Aulis. Il invente un prétexte. Il va, dit-il, la marier à Achille, le fils d'une déesse. Achille n'est pas au courant. Quel mariage pourrait être plus beau ? Iphigénie arrive au camp des Grecs. Agamemnon la conduit à sa cérémonie, pas celle d'un mariage, mais d'un égorgement. Là, les récits divergent. On a deux traditions. Ou bien les rois grecs, menés par Agamemnon, égorgent effectivement la pauvre Iphigénie. Elle a beau supplier du regard, on l'avait bâillonnée, elle meurt. Ou bien la déesse Artémis sauve la jeune fille au dernier moment. Soit en fabriquant un fantôme qui lui ressemble, un clone, soit en enlevant Iphigénie et en laissant à sa place une biche qui meurt, égorgée. Iphigénie est alors sous la protection d'Artémis. La déesse, dit-on, aurait fait d'elle sa prêtresse dans un pays lointain, ou bien elle l'aurait immortalisée. Iphigénie finit même par porter l'un des nombreux noms de la déesse. Elle devient Artémis des chemins. Parfois, on dit que la déesse est Hécate. C'est en réalité Iphigénie. Euripide, dans sa pièce « Iphigénie à Aulis », reprend la tradition de l'enlèvement d'Iphigénie par Artémis et de l'apparition soudaine, inattendue d'une biche à la place de la jeune fille. Les Grecs n'en reviennent pas. Ils étaient bien résolus, tous unanimement, à mettre à mort la fille du roi Agamemnon. Ils avaient même fait toutes les prières nécessaires. Achille, qu'on avait présenté comme le mari promis à Iphigénie et qui avait d'abord juré de la défendre, s'est empressé de faire le maître de cérémonie pour ce sacrifice humain. Les grands héros ne sont pas si grands que ça. Le sacrificateur allait frapper, mais Artémis, qui avait exigé avec force le sacrifice, joue un bon tour aux Grecs. Elle leur enlève la petite. Un messager bouleversé raconte à Clytemnestre la scène de ce sacrifice surprenant.
De sa main, Calchas, le devin, tira le couteau acéré de la gaine et le posa dans la corbeille ciselée d'or et il couronna la tête de la jeune fille. Le fils de Pélée, Achille, saisit ensemble la corbeille et les bassines et court en cercle autour de l'autel de la déesse. Il dit « Fille de Zeus, Artémis, tueuse de bêtes qui fait dans la nuit tourner ta lumière brillante, accueille ce sacrifice dont nous te faisons l'offrande, nous, l'armée des Grecs, avec le prince Agamemnon, accueille le sang immaculé d'un beau coup de vierge, accorde à notre flotte une traversée sans encombre et à nous de prendre le château de Troie à la guerre. » Les Atrides avaient le regard fixé au sol, et comme eux, toute l'armée. Le prêtre tenait le couteau à la main et disait sa prière. Il examinait la gorge pour voir où il allait frapper. Moi, une douleur poignante s'était emparée de mon cœur et je restais la tête baissée. Mais un prodige aussitôt se fit voir. Chacun aurait dû entendre clairement le bruit du coup. Or, on ne vit pas où la fille avait disparu dans la terre. Le prêtre poussa un cri. L'armée entière lui répondit. Ils avaient devant eux une vision inattendue, produite par quelque dieu sans qu'on eût le moindre indice. Une biche gisait sur le sol, palpitante, la plus grande qu'on pût voir, un spectacle superbe. L'autel de la déesse était inondé d'une nappe de sang.
Clytemnestre ne croit pas vraiment à ce récit. Elle pense qu'on essaye de la tromper en lui faisant croire qu'Iphigénie n'est pas morte. Et de toutes les manières, Agamemnon, en acceptant le sacrifice, la séparait à jamais de sa fille, qui est partie on ne sait où, inatteignable. La souffrance, elle, est bien là, présente pour toujours.
Oh ma fille, tu es devenue la capture d'un dieu. Comment m'adresser à toi ? Comment affirmer que ces histoires ne sont pas des contes vides qu'on me raconte pour me faire quitter le deuil amer que tu me causes ?
Les vents se calment. Artémis est contente. Agamemnon a payé son orgueil. Il est privé de sa fille, disparue. La flotte grecque peut partir et faire sa guerre de 10 ans. Mais Agamemnon ne perd rien pour attendre. Clytemnestre a perdu sa fille, qui lui a été arrachée. Elle attend 10 ans. Clytemnestre tuera Agamemnon. À peine il reviendra de Troie.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de la Combe.
Wind is blowing down the street. You come along. Wind is blowing on my dream. Look what you've done. Wind is blowing down the stairs. All people want to know, we'll be blowing forever till we are gone. Wind is blowing down the street, and we all around got them that are crying so much pain and misery.
Pierre Judet de la Combe fait le portrait de Clytemnestre,
dont la fille, Iphigénie, a été tuée sous l'ordre des dieux.
Mais l'histoire d'Iphigénie, d'Agamemnon et de Clytemnestre prend une autre ampleur, devient encore plus émouvante et plus intéressante si on la raconte autrement. C'est ce qu'a choisi de faire le poète Eschyle dans sa grande tragédie Agamemnon. D'abord, Eschyle change l'histoire habituelle. L'idée qu'Agamemnon, le roi de toute l'armée, doive payer par la mort de sa fille une petite broutille comme sa vantardise envers Artémis lui paraît trop faible, trop mesquine, un mauvais scénario. Si Artémis oblige Agamemnon à commettre cet acte épouvantable, c'est qu'elle avait une raison plus sérieuse que de punir une simple faute d'orgueil. Artémis est irascible, mais quand même. Échille imagine alors toute autre chose. Il imagine que la faute qu'Agamemnon doit payer par l'immolation de sa fille, puis par sa propre mort, est immense. C'est le massacre de toutes les vies troyennes que l'armée grecque va perpétrer à Troie. Certes, ce massacre n'a pas encore eu lieu, mais il est inévitable, il est de l'ordre du destin, car il est voulu par Zeus. Si les Grecs partent en guerre, c'est en effet au nom de Zeus et avec son soutien. Ils vont punir le crime qu'a été l'enlèvement d'Hélène. Les Grecs sont dans leurs droits, leur guerre est juste. Zeus est avec eux. Mais cette guerre sera très meurtrière. Beaucoup de vies innocentes vont être sacrifiées. Or, Artémis, nous en avons parlé lors de l'épisode que nous lui avons consacré, ne peut être qu'horrifiée, révoltée par un tel massacre. Elle est la déesse qui défend les vies innocentes. C'est son domaine, les petits des animaux, les nouveau-nés. Mais Artémis ne peut pas se révolter contre son père Zeus. Elle est plus faible que lui. Elle ne peut pas empêcher la guerre de Troie qui est menée au nom de la justice de Zeus. Artémis va alors s'attaquer à Agamemnon. Échille raconte comment Aulis, devant la flotte, est apparu un présage surprenant. Deux aigles, l'un tout noir, l'autre à la queue blanche, s'abattent sur une ase, la femelle du lièvre. Cette ase avait le ventre plein d'une portée nombreuse. Les aigles dévorent la ase et toute sa portée avec férocité. C'est sanguinaire, horrible. Le devin de l'armée grecque, Calchas, comprend tout de suite que les deux aigles représentent les deux Atrides, Agamemnon, l'aigle noir, Ménélas, l'aigle à la queue blanche. Il comprend tout de suite que la ase pleine est la ville de Troie, qui sera dépecée, dévorée par les Atrides et leur armée. Comme les aigles sont des oiseaux de Zeus, cela veut dire que l'armée conduite par les deux aigles sera victorieuse. Mais cela veut dire aussi que la déesse Artémis, qui protège les animaux et leurs petits, va protester, va se mettre en colère. Le devin Calchas parle.
Car prise de pitié, elle est en colère, Artémis, la pure, contre les aigles, ces chiens ailés de son père Zeus. Avec ses petits, il sacrifie avant la délivrance une misérable blottie de peur. Artémis est le repas des aigles. Lamentation. Dis la lamentation, mais que le bien triomphe.
Le devin annonce aux deux Atrides qu'ils devront payer. À Troie, ils vont détruire des vies par milliers. Pour compenser ces vies assassinées, Agamemnon, le chef de l'expédition, devra par avance offrir à la déesse une vie, la plus pure, la plus belle, la plus choyée dont il dispose, celle de sa fille. Et de fait, Artémis lève un vent violent qui bloque toute la flotte. Agamemnon résiste, pleure, il n'a pas d'issue. S'il refuse de tuer sa fille, cela veut dire que la justice de Zeus, dont il est le bras armé, ne se réalisera pas, qu'elle sera humiliée, c'est impossible. S'il accepte, il commet un acte ignoble et attire sur lui le malheur le plus grand. Agamemnon gémit.
Ne pas obéir, un lourd désastre. Lourd encore si je déchire l'enfant, la beauté de la maison, et souille dans les flots d'une vierge égorgée mes mains de père près de l'autel. Où n'est pas le mal ?
Finalement, Agamemnon accepte l'ordre d'Artémis. Il va réaliser la justice de Zeus à Troie, justice cruelle, et va devenir l'assassin de sa fille. Il le paiera. Clytemnestre s'en charge. Clytemnestre attend. Entre-temps, elle prend un amant, Égiste, qui devra remplacer le mari qu'elle va supprimer dès qu'il reviendra. Sur le toit de son palais, Clytemnestre a posté un garde. Il veille toutes les nuits. Il scrute la crête des montagnes vers le nord-est. Il guette le moment où apparaîtra un signal de feu. Clytemnestre s'est en effet arrangé pour apprendre tout de suite si l'armée grecque est venue à bout de la ville de Troie. Une longue chaîne de feu par relais traverse la Méditerranée puis la Grèce, de signal en signal, jusqu'au toit du palais de Clytemnestre. Cette série de signaux lumineux lui apprendra presque immédiatement la victoire des Grecs. Comme ça, Clytemnestre ne sera pas prise au dépourvu quand Agamemnon débarquera en Grèce. Le garde, sur le toit, se plaint. Il a froid, a envie de dormir. Il essaye de chanter pour se donner du courage, mais chaque fois qu'il essaye, il pleure. Il a compris ce qui se passe dans le palais, mais il lui faut obéir aux ordres impérieux de Clytemnestre, cette femme si virile.
Car ainsi le commande un cœur de femme qui veut, comme un homme, il attend.
Soudain, la lumière attendue apparaît enfin sur la cime d'une montagne proche de la ville. Cette montagne s'appelle l'Araignée. Tout un programme pour un piège. Troie vient d'être prise par les Grecs. Clytemnestre la prend tout de suite. L'action de vengeance peut commencer. Agamemnon est annoncé. Il a traversé la mer. Une tempête furieuse. Mais il est là. Il arrive chez lui, triomphant, sur son char de vainqueur. Comme les dieux lui ont donné la victoire à Troie, même si ça a été dur, il est sûr qu'il a toujours les dieux avec lui. Si jamais un problème se pose dans sa ville qu'il a quittée pendant 10 ans, s'il y a de l'insoumission, il saura faire avec l'aide des dieux, comme il a su faire à Troie. En fait, cet Agamemnon est un peu bête. Il ne comprend rien. Agamemnon s'apprête à rentrer chez lui après avoir rendu hommage aux dieux. Il s'apprête à quitter son char où il pérorait et à marcher jusque chez lui. Mais là, surprise. Clytemnestre, qui ne s'était pas encore montré, sort brusquement du palais. Des servantes l'accompagnent, les bras chargés d'étoffes merveilleuses, brodées, chamarrées, des tissus de couleur pourpre, un vrai trésor. Les servantes déploient devant Agamemnon un chemin rougeoyant entre son char et la porte d'entrée de son palais. Agamemnon ne s'y attendait pas, il s'arrête. Clytemnestre lui parle, pour la première fois depuis son départ. Elle lui démontre que rester solitaire et évidemment fidèle dans ce palais, privé de lui, l'homme chéri, adoré, était plus dur que tout ce qu'il a pu vivre. Elle fait de lui un éloge époustouflant comme maître de maison, en disant en fait tout ce qu'il n'a pas été pendant 10 ans.
Aujourd'hui, moi qui ai tant souffert d'un cœur désendeuillé, je pourrais dire que l'homme qui est ici est le chien de garde des écuries, l'étai qui sauve le bateau, la colonne bien posée du toit éminent, l'enfant unique né pour son père et la terre qui se montre aux marins qui n'en avaient plus l'espoir.
Elle dit tout cela alors qu'Agamemnon, en tuant leur fille, a été tout le contraire d'un gardien de sa maison. Puis, elle ordonne à Agamemnon de ne pas marcher sur le sol, ce serait indigne de lui, mais de fouler le chemin de pourpre qu'elle a fait déployer devant lui. Il résiste. Car, dit-il, ce sont les dieux qu'on traite ainsi, pas un mortel comme lui. Et puis marcher sur ses étoffes, ce n'est pas très économique. C'est détruire, pour une part, la richesse du palais. Elle insiste. Finalement, il se dit que si elle insiste, c'est parce qu'elle est une femme et fait un caprice. Il ne va pas s'abaisser à combattre une femme. Il maugrait et cède et marche sur le chemin de pourpre. Il donne alors de lui une image surprenante. Lui, le roi, il s'avance pieds nus vers le lieu de son immolation, sans le savoir évidemment, comme avancerait vers le sacrificateur un bœuf consentant. Il marche sur la pourpre, ce produit magnifique et proliférant de la mer, sécrété à profusion par les coquillages marins. Agamemnon, pour entrer dans son palais, doit traverser encore une fois la mer. Il va répéter symboliquement son geste à Aulis. Pour franchir la mer, là-bas, il a versé le sang de sa fille. Cette fois, au bout de cette mer symbolique, il trouvera, lui, son abattoir. La pourpre dit la gloire d'Agamemnon, sa dignité de roi, mais elle dit aussi tout le sang qu'il a versé à Aulis et à Troie. Clytemnestre n'a pas besoin d'en dire plus pour montrer qu'elle l'a condamné du grand théâtre. Pour essayer de faire bonne figure, pour montrer que lui, le conquérant, il peut apporter un trésor au palais. Agamemnon présente à Clytemnestre Cassandre, ce bijou, la fleur choisie parmi 1000 richesses que les Grecs lui ont offerte. Agamemnon l'a ramenée de Troie, elle, la fille du roi Priam, et l'a utilisée comme esclave et comme amante forcée. Il demande à Clytemnestre de l'accueillir avec bienveillance. Cet Agamemnon manque décidément de tact. Clytemnestre ne se privera pas de supprimer cette fille. Nous devrons un autre jour raconter l'histoire et le triste destin de la merveilleuse Cassandre. Agamemnon rentre chez lui. Il a droit à un bain. Il pousse un cri, puis puis un autre, puis il meurt. Clytemnestre l'a frappé.
Oh ! Je suis frappé du coup de mort ici.
Silence. Qui est-ce qui crie qu'il a reçu le coup de la mort ?
Oh ! Encore, de nouveau, une seconde fois frappé.
Le crime est commis. À en juger par ce cri du roi.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Pierre Judet de Lacombe parle de Clytemnestre.
Victime de son mari et de la cruauté des dieux.
Après le meurtre, Clytemnestre raconte elle-même la manière dont elle s'y est prise pour abattre son homme. Elle s'en vante publiquement, devant les anciens de la ville. Auparavant, elle a pris soin de tirer devant eux, sur scène, les cadavres des deux amants qu'elle vient d'assassiner au fond du palais, Agamemnon et Cassandre. Elle commence par dire sans aucune honte qu'il ne fallait pas croire un mot de l'éloge qu'elle avait prononcé d'Agamemnon devant lui pour l'accueillir.
Ces paroles nombreuses que j'ai prononcées autrefois avec justesse, je ne rougirai pas de prononcer leur contraire.
Elle n'avait pas le choix. Elle était obligée de mentir, car c'est un piège qu'elle devait construire pour abattre un mari qui était en fait un ennemi.
En effet, quand on se propose des actes d'inimitié contre des ennemis qui passent pour des amis, comment bâtir un désastre qui devienne un filet si haut qu'il interdise qu'on s'échappe d'un bond ?
Puis elle raconte. Le bain, le piège, les coups. Le bain offert pour accueillir son mari devait normalement servir de préliminaire à une scène érotique de retrouvailles. C'est bien ce qui aura lieu. Mais pas pour lui, seulement pour elle, qui éprouvera un plaisir immense quand elle sera frappée par le jet de sang qui va jaillir de la blessure mortelle d'Agamemnon.
J'ai agi et cela je ne le nierai pas, de sorte qu'il ne put ni s'enfuir ni éviter la mort. L'enveloppe sans limite d'un filet comme pour des poissons, je la range autour de lui, richesse malfaisante d'un vêtement. Et je le frappe deux fois, et en deux gémissements, il lâcha ses membres, et à l'homme, à terre, j'offre en plus une troisième frappe, action de grâce dédiée au dieu Hadès des enfers, le gardien des morts. Et ainsi abattu, il déchaîna son ardeur. Soufflant la saignée d'une victime égorgée nette, il me frappe des gouttes ténébreuses d'une rosée de sang, ne me faisant pas moins plaisir que lorsqu'au vent de pluie donné par Zeus, la fleur semée s'illumine quand le calice naît au monde.
Ce meurtre est un vrai printemps, une floraison. Pourquoi cette mise en scène? Pourquoi tant d'insistance sur le plaisir? Tout simplement, sans doute, parce que, en tuant leur fille, Agamemnon a tué aussi sa fonction de père. Il a tué sa paternité, sa famille. Il a nié son accouplement avec Clytemnestre. Elle montre tout ce qu'Agamemnon a détruit. Elle le tue comme un géniteur qui se serait supprimé lui-même. Son sang se substitue à sa semence. Les anciens, les notables de la ville d'Argos qui l'écoutent et qui sont restés fidèles à Agamemnon sont épouvantés, révoltés. Ils veulent punir Clytemnestre, la faire lapider par le peuple ou la chasser. Clytemnestre répond, c'est comme mère, comme femme qu'elle a tué. Agamemnon a ignoré ce que c'est qu'accoucher. Faire naître dans la douleur ce qu'on aime. Agamemnon l'inhumain a tué l'accouchement.
Et voilà que tu me condamnes à être exilé de la ville et à subir la haine des habitants et les malédictions grondantes du peuple, alors que cette protestation, tu ne la fais pas valoir contre cet homme, lui qui, confondant les dignités, comme si c'était la mort d'une bête quand les brebis affluent au troupeau de belle laine, sacrifia sa propre fille, la douleur chérie de ma délivrance, pour ensorceler les souffles des vents de Thrace.
Clytemnestre ne se pense pas comme meurtrière, mais comme justicière. Agamemnon a subi exactement ce qu'il méritait.
Ma jeune plante, celle qui a poussé de cet homme et qui est devenue l'Iphigénie de si grands pleurs, il lui a fait ce qu'il ne devait pas et a subi ce qu'il devait. Qu'il ne se donne pas une grande gloire dans les enfers. Une mort qui détruit par l'épée lui a fait payer exactement ce qu'il a accompli.
En fait, Clytemnestre lui a permis de rejoindre sa fille chez les morts. La famille se reconstitue dans l'au-delà.
Iphigénie, face à lui, tendrement, la fille comme il convient, ira à la rencontre de son père sur les rives du fleuve où courent les souffrances. Elle l'enveloppera de ses bras pour un baiser.
Clytemnestre ment, trompe, tue son mari de manière infamante pour lui, dans une baignoire. Mais que pouvait-elle faire d'autre? La situation de Clytemnestre était sans issue, intenable. Clytemnestre n'avait aucun recours. Le recours normal dans les villes où il y a un roi comme Agamemnon, c'est le roi. Un roi doit savoir, dans chaque situation, faire le bon choix. Il doit savoir rendre la justice par des jugements justes, réparer les torts subis et rétablir l'harmonie dans sa cité. Or là, le meurtrier, c'est le roi lui-même. Clytemnestre est donc condamnée à rendre justice elle-même, par ruse. Les dieux ont été épouvantablement cruels avec cette famille, et notamment avec Clytemnestre. Clytemnestre veut faire payer son mari au nom de la justice, mais les dieux ont rendu la justice insupportable, invivable, contradictoire, facteur de violence et non de paix. En effet, en sacrifiant sa fille, Agamemnon a agi au nom du droit, de la justice de Zeus, parce que Zeus voulait à tout prix faire payer aux Troyens la faute de Paris. Sinon, la justice de Zeus aurait été vide, bafouée, ce qui était impossible. Il fallait donc que la flotte des Grecs puisse partir vers Troie et imposer un châtiment à la ville de Paris. Mais ce châtiment divin sera cruel, destructeur de tant de vies. Une guerre punitive, même présentée comme juste, reste une guerre, un massacre. Il fallait donc aussi qu'Agamemnon, le futur massacreur en chef de l'armée grecque, paye lui-même en massacrant au préalable, par compensation, ce qu'il avait de plus cher, la vie de sa fille, pour l'offrir à Artémis. Cette mise à mort est rituelle. Elle plaît aux dieux qui l'ont demandée. Mais Agamemnon doit la payer. Elle a beau avoir été demandée par les dieux, c'est un crime. La situation voulue par les dieux est inextricable. Où est la justice? Les dieux, Zeus, Artémis, ont été cruels. Ils ont mis les humains, Agamemnon, Iphigénie, Clytemnestre, dans des situations invivables. Ils les ont condamnés à la violence, et cela au nom du droit, au nom de la justice qui, normalement, devrait apaiser les conflits, devrait rendre les sociétés plus heureuses, plus vivables. Là, c'est le contraire. La justice, celle de Zeus contre les Troyens. Celle d'Artémis contre le massacreur que sera Agamemnon à Troie. Celle de Clytemnestre contre le père qui a traité sa fille comme une bête à sacrifier. Fait s'enflammer la violence. Il n'y a plus de paix, de bien vivre possible. Les dieux, impitoyables, ont imposé la cruauté aux humains. Est-ce que les humains dans cette histoire ne commencent pas à découvrir qu'en fait, ils valent mieux que leur dieu? Clytemnestre commence à le découvrir. Elle sait malgré tout qu'elle a été criminelle en vengeant la petite Iphigénie et que sans doute, elle devra le payer. Lucide, elle sait que son acte sanglant perpétue les horreurs qui se sont accumulées dans le palais depuis plusieurs générations. Elle a agi au nom d'un enfant, mais le sang qu'elle a versé rappelle celui des enfants tués par Atrée. Clytemnestre se sait en danger, à la merci d'un futur vengeur. Il viendra. Ce sera son fils, Oreste, qui la tuera. Mais totalement consciente de ce qu'elle a fait, Clytemnestre se dit prête à traiter avec la divinité qui, depuis des générations, maltraite la famille, l'Erinie, pour qu'elle arrête d'enchaîner violence sur violence. Clytemnestre espère qu'arrivera un temps où les dieux permettront vraiment aux humains de vivre et les y aideront. Un temps où
la douleur chérie de ma délivrance
ne sera pas bafouée, mais pourra engendrer une vie vivable qui dure. Et de fait, les dieux vont s'améliorer. Ce sera la fin de l'histoire. Cela viendra, mais plus tard. Il faudra d'abord que Clytemnestre paye parce qu'elle a tué, mais ne perdons pas espoir.
Ariane Mouchkine.
Le goût du sang, le goût du meurtre, le goût de l'envie de tuer ce qu'on a de plus proche, que ce soit son enfant, maintenant, ou sa mère. Au théâtre, c'est une délivrance, c'est-à-dire on a la permission, puisque c'est une fiction. C'est du théâtre, c'est de la poésie, c'est de la fiction. J'ai le droit. J'ai le droit d'être troublé, j'ai le droit d'être bouleversé, j'ai le droit d'avoir envie de sang, j'ai le droit parce que je ne passerai pas à l'acte.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Vous retrouverez toutes les références bibliographiques de cet épisode sur le site de France Inter. Cette émission a été réalisée par Xavier Pestudia. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tesser. Les textes ont été lus par Yaël Eladad et Laurent Stocker, avec la voix d'Andrea Lechêne. La programmation musicale est de Thierry Dupin. La prise de son a été assuré par Éric Villenfin et le mixage par Benjamin Vignal. La semaine prochaine, nous parlerons d'Electre, la reine des douleurs. Bonne année sur France Inter.